Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Les regards sont tournés aujourd'hui vers le centre Bosolo à Kinshasa, où la CENI prévoit de publier les résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier. Dans ce journal, nous verrons l'ambiance dans certaines villes du pays, soit Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimayi. Des violents affrontements ont repris cette semaine à Kwamout dans le Maïmdombe. Ils opposent les FARDC à la milice Mobondo. Ces miliciens occupent plusieurs villages entre Bandunduville et Kinshasa. Ils ont pris en otage plus de 30 véhicules avec des passagers au niveau de Massiambio, rapportent plusieurs sources. Et puis, l'invité de ce midi, Thomas Lubanga, président du parti politique Union des Patriotes Congolais UPC, il nous parle de son inéligibilité due à son ancienne condamnation par la CPI, l'échec de sa mission de pacifier l'Ituri et quelques recommandations à la CENI et à la Cour constitutionnelle sur les élections du 20 décembre. Madame, Messieurs, bonjour. Élection présidentielle 2023. Le résultat provisoire est attendu ce dimanche 31 décembre. Selon un programme publié par la Commission électorale, la cérémonie officielle de la publication, sauf changement de dernière minute, débute à partir de 14h heure de Kinshasa. Ce scrutin combiné de décembre 2023 marque le quatrième cycle électoral après ceux de 2006, 2011 et 2018. En attendant la publication des résultats définitif par la Cour constitutionnelle. Retour sur ce processus électoral qui était de tous les enjeux et c'est avec vous, Cynthia Bachizi.
Contexte sécuritaire fragile dans la partie est du pays, des couacs logistiques à la hauteur d'un pays continent avec un déficit d'infrastructures routières, mais aussi des cartes d'électeurs qui devenaient illisibles au fil du temps. Tensions politiques, notamment sur l'acceptation de Denis Kadima comme président de la centrale électorale. Beaucoup étaient dubitatifs sur la tenue effective de ces élections le 20 décembre 2023. Mais pour Denis Kadima, le pari est gagné et il n'en manque pas de s'en féliciter. Surtout que c'est la première fois que des élections municipales partielles soient organisées simultanément avec les législatives et provinciales, avec des chiffres records de candidatures enregistrées comparaison au cycle électoraux passés. Une autre particularité de ces élections a été le vote pilote des Congolais de la diaspora dans 5 pays, dont notamment la France, la Belgique, les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Canada. À côté de cela, plusieurs missions d'observation jouaient le rôle de vigie, particulièrement celle de la CENI avec environ 25 000 observateurs déployés à travers le pays. Pour rappel, près de 44 millions de Congolais étaient appelés aux urnes, mais tout porte à croire que le taux de participation sera d'environ 50% d'après des analystes. Ça sera parmi les plus grands défis pour les cycles électoraux à venir.
Mais déjà hier, il y a eu rencontre au centre Bosolo entre le président de la commission électorale et les représentants de la mission d'observation menée par les églises catholiques et protestantes, Moé, Senko et CC. Cette délégation était conduite par Mgr Donatien Cholet et le révérend Eric Senga. Leurs échanges ont tourné autour du contenu du rapport préliminaire de la Moé, Senko et CC publié récemment sur le déroulement des élections. Le président de la CENI dit avoir expliqué à ses hôtes notamment la question du centre local de compilation des résultats d'Denis Kadima dans cet extrait que nous propose Grâce Amzati.
Nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularité qui ont été constatés, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a recueilli les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. On a parlé des irrégularités et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, la CENCO-SCC et la CENI, nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats.
Comme nous l'avons dit, la publication des résultats de l'élection présidentielle intervient dans les heures qui suivent. Quelle est l'ambiance qui règne actuellement au centre Bosolo à Kinshasa, lieu de la cérémonie? Retrouvons sur place Grace Amzati. Bonjour.
Bonjour Belinda Bosuma. Tous les signes montrent qu'aujourd'hui c'est un jour particulier au centre Bosolo. Déjà à l'arrivée à l'Athénée de la Gombe où est érigé ce centre, le dispositif sécuritaire est remarquable. À toutes les barrières avant d'accéder dans la salle où se tiendra la cérémonie, les services de sécurité procèdent à un contrôle systématique. Les sacs sont fouillés. Dans la salle, le décor est déjà planté. Même la disposition a un tout petit peu changé. L'heure est aux dernières retouches de la mise en place sous la musique. Plusieurs officiels sont attendus. À part les agents de la CENI, quelques journalistes sont aussi présents. La cérémonie est prévue à 14h, heure de Kinshasa, selon le programme donné par la centrale électorale. Depuis le centre Bosolo, Grâce Amzati Masanzi, Radio Kapi.
Merci Grâce. Nous restons à Kinshasa, mais cette fois dans la commune de Limété, réputée bastion de l'UDPS. Le climat est plutôt serein, c'est comme nous le décrit Enoch Matondo qui est sur place.
De la 1ère à la 17e rue Limitée, des éléments de la garde républicaine armés de fusils automatiques sont postés. À l'intérieur de la commune, des jeunes visiblement vêtus de t-shirts flanqués de la photo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas d'attroupement des gens discutant sur la politique. La commune de Limitée est quasiment calme. Pendant que nous donnons cette information, nous nous trouvons à quelques encablures de la résidence familiale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune ambiance spéciale n'est à signaler également. Même au siège du parti, quelques partisans ont répondu présents. Ils disent être confiants de la victoire de Fatshi, comme ils aiment l'appeler. À 3h de la proclamation des résultats partiels par la Commission électorale nationale indépendante, on peut dire que la commune de Limitée est quasiment calme. Depuis Limitée, Enoch Matondo, Radio Okapi.
Merci Enoch Matondo Mvuizolo. Voyons maintenant comment se présente la situation dans certaines villes du pays. Nous sommes d'abord à Lubumbashi. La ville attend dans la sérénité la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre. Jean Gandou a fait le tour de la ville ce matin. Voici son reportage.
La ville de Lubumbashi est calme en cette journée dominicale. Au centre-ville, la circulation est fluide et certaines routes sont quasi désertes. Seuls les véhicules sont les plus visibles. Au siège de partis politiques de l'opposition, dont Ensemble pour la République et Nouvel Élan, aucun mouvement n'est à signaler. Ce qui contraste avec l'ambiance qui prévaut devant le siège de l'UDPS, situé non loin de la place de la Poste. Les combattants ont déjà commencé la fête. D'après l'un d'entre eux, la publication des tendances par la CENI a déjà tué tout suspense.
Oui, nous sommes en joie, vivant la température qu'on attend. Nous savons tous que non, d'ici là, 15h, heure de Lubumbashi, on va passer à la publication de notre gagnant victorieux, le chef de l'État. Comme nous sommes déterminés avec le résultat partiel, c'est là où déjà la joie a déjà commencé avant que la CENI confirme cela.
Juste à côté, à la place Moïse Tshombe, on remarque la présence de nombreux policiers. Un couple rencontré sur l'avenue Mamayemo, qui revenait de l'église, nous a indiqué qu'il se précipite à rentrer à la maison, redoutant des violences à la publication des résultats. Entre-temps, les appels au calme sont lancés par plusieurs personnalités, dont le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme dans le Haut-Katanga. Joseph Kongolo demande à tout le monde de préserver la paix, gage de tout développement. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Du côté de Mbujimayi, le calme règne dans la ville, le ciel est nuageux et la pluie s'annonce au risque de gâcher l'ambiance de la publication des résultats des élections. C'est ce que nous dit Esther Ndalafina.
Depuis tôt le matin jusqu'à la mi-journée, le calme plat règne dans la ville de Mbujimayi. La pluie s'annonce car le ciel est à moitié nuageux. Pour permettre à chaque habitant de suivre la publication des résultats des scrutins combinés du 20 décembre dernier, plusieurs églises ont écourté le culte de ce dimanche et ont libéré leurs adeptes. Certains parents se précipitent pour rejoindre leur domicile. Au niveau du grand marché, quelques personnes achètent des sifflets et se préparent d'envahir les grandes artères pour manifester leur joie. Jusqu'alors, rien à signaler au niveau des états-majors des partis politiques. Depuis le rond-point Petrombou dans la commune de Bipemba, en Mbujimayi, Esther Ndalafina pour Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. Pendant qu'on attend cet après-midi la publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre, la population de Rutshuru, elle, attend le rétablissement de l'autorité de l'État dans ce territoire pour qu'elle s'y choisisse aussi ses représentants à l'Assemblée nationale et provinciale. C'est ce qu'a dit ce dimanche Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, vivant en déplacement à Goma depuis plus d'une année maintenant. Pour lui, les populations de Rutshuru et Masisi n'ayant pas été associées au choix du président de la République, elles attendent du nouveau gouvernement des actions qui vont mettre fin à la rébellion du M23 dans leur territoire. Jean-Claude Mbabazé le dit au micro de Rosalie Zawadi.
Nous, ce qu'on attend, c'est en fait l'organisation des élections dans ces deux territoires qui ont été exclus. Parce que vous savez que comme au niveau de la province, par exemple, où Rutshuru-Masisi compte 15 députés, comment on va mettre en place l'Assemblée provinciale sans Rutshuru-Masisi? Comment on va mettre en place les institutions provinciales, notamment le gouvernement sans Rutshuru? Donc bref, nous pensons que l'organisation des élections dans le Rutshuru est vraiment une urgence pour qu'il y ait une bonne marche des institutions, surtout au niveau de la province. Mais également, on ne sait pas comment ça va se passer pour les députés de Rutshuru qui devaient aller siéger au niveau de l'Assemblée nationale pendant que Rutshuru n'a pas élu. Ça, c'est aussi une question. Et que donc notre demande, c'est que le gouvernement qui va être mis en place après cette publication s'attelle sur des questions sécuritaires de l'Est. Il faut que ce gouvernement, en tout cas, mette fin à cette rébellion pour permettre que les élections aussi aient lieu afin que Rutshuru et Masisi aient aussi des représentants.
Rappelons que trois territoires du Nord Kivu n'ont pas participé aux élections du 20 décembre dernier à cause de l'insécurité. Il s'agit de Masisi et Rutshuru dans le Nord Kivu. Le troisième, c'est Kwamout dans la province de Maïndombe. Parlant justement de Kwamout, nous apprenons la reprise des affrontements violents cette semaine entre les FARDC et la milice Mobondo dans cette partie de la province du Maïndombe. À ce jour, ces miliciens occupent plusieurs villages situés sur la route nationale numéro 17 reliant Bandunduville à Kinshasa. Ils ont pris en otage plus de 30 véhicules avec des passagers qui sont pour l'instant bloqués au village Massiambio. Plusieurs sources alertent sur cette situation, entre autres le député provincial David Bisaka, élu du coin. Ce dernier signale aussi plusieurs blessés et déportés disparus. Il invite le gouvernement congolais à prendre des dispositions qui s'imposent pour sécuriser cette partie du pays. Le député David Bisaka est au micro de Irène Boma.
Aujourd'hui, on ne peut pas quitter Bandundu pour faire Kinshasa parce que des Makou à la ferme gouverneur. Toutes les fermes là sont habitées aujourd'hui par les Mobondo. Les véhicules sont pillés. Hier, on a même pillé un véhicule qui amenait les vivres frais à la ville de Bandundu. Pillé vers Tikangaï. Les autres véhicules déboursent déjà chemin jusqu'à Massiambio. À Massiambio, la place est devenue un parking où vous comptez plus de 20-30 véhicules. Il y a les échanges de tirs entre les FARDC et les assaillants. Tous les villages, là, on attaque les militaires. Vous allez à l'hôpital général de Massiambio, vous trouvez tous les lits occupés par les militaires blessés. Il y a des disparus, il y a des blessés. Le nombre de déplacés à Bandunduville, c'est triple, parce que cette population ne peut plus faire Kinshasa. Elle se pointe vers Bandunduville. Et plus pire encore, les gens de Makou sont maintenant à la forêt. Vous imaginez ces dangers-là? J'interpelle l'État congolais. C'est une obligation pour l'État congolais de sécuriser les paisibles citoyens pour les territoires de Kwamoutou. Il y a des gens qui tombent chaque jour.
Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, les agents et cadres de l'Assemblée provinciale sont en colère à la veille du nouvel an en cause le non-paiement de leur salaire évalué à 8 mois pour Kinshasa dans le cadre de la rémunération des charges transférées allouées à la province dite rétrocession et 4 mois d'intervention du gouvernement provincial communément appelé subside. Selon eux, cette situation affecte négativement leur vécu quotidien et les rend irresponsables vis-à-vis de leurs obligations parentales. Ils ont fait cette déclaration hier à la presse, au siège de l'organe délibérant provincial à Kisangani, par le biais de leur porte-parole, Olivier Okoko-Odinga, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Il est inimaginable qu'un ministère ayant dans ses attributions les finances, Nicolas Kazadi pour ne pas les citer, boycotte les instructions du chef de l'État, quand bien même il serait membre de l'IDPS, le parti présidentiel. De la même manière, il est impensable, au moment où les recettes propres de la province de la Tchopo sont estimées à plus d'un million de dollars américains par mois, que Mme Madeleine Nikomba, gouverneure des provinces, ne considère pas le salaire comme dépense prioritaire. Y égard à tous ceux qui possèdent, Nous, cadres et agents de l'Assemblée provinciale de la Tchop, interpellons la conscience des autorités tant nationales que provinciales d'accorder les bénéfices de l'urgence à notre revendication afin de régler diligemment et urgemment cette situation qui, d'ores et déjà, a créé des problèmes au sein de nos différents foyers. Pour redorer l'image de notre pays, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, d'adjoindre Monsieur Nicolas Kazadi et Madame Madeleine Nkomba, chacun en ce qui les concerne, de payer nos arriérés des salaires afin de nous permettre de subvenir à nos obligations familiales.
Pour l'heure, nous n'avons pas réussi à joindre aucune des autorités incriminées par rapport à ces revendications.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Au moins 21 personnes ont trouvé la mort dans des inondations provoquées par des fortes pluies dans la ville de Ladysmith, dans la province du KwaZulu-Natal. D'après les autorités sud-africaines, il est possible que le bilan s'alourdisse en raison du nombre important des personnes portées disparues. Ces inondations ont eu lieu le jour de Noël, détruisant environ 1400 maisons. Les recherches sont en cours pour retrouver les corps des victimes dans la région. Le porte-parole de la police sud-africaine a fait savoir que l'opération doit s'y poursuivre tout ce week-end. 7 membres d'une même famille ont perdu la vie dans cette tragédie. La force des eaux a poussé leur véhicule dans une rivière.
L'invité.
Mon inéligibilité constatée par la Cour constitutionnelle est valable, mais elle est révocable, déclare Thomas Lubanga, président du parti politique Union des Patriotes Congolais, UPC. Au cours d'une matinée politique de restitution de ce qu'a été la campagne électorale, il nous parle ici de cette inéligibilité due à son ancienne condamnation par la CPI, l'échec de sa mission de pacifier l'Ituri et quelques recommandations à l'endroit de la CENI et de la Cour constitutionnelle sur les élections du 20 décembre. Thomas Lubanga, notre invité s'entretient avec Jeff Ngoy.
Monsieur Thomas Lubanga, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez sur la liste d'un regroupement politique non allié de l'Union Sacrée, mais votre candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle, puisque vous êtes frappé d'inéligibilité. Comment digérez-vous votre inéligibilité?
Oui, je pense que c'est vrai. Ma candidature à la députation nationale a été rejetée par la Cour constitutionnelle pour des raisons évidentes de la loi électorale à son article 10. Je ne me suis pas abattu pour cela parce que c'est vrai, la loi qui a conduit à l'invalidation de ma candidature avait sa place. Mais cela ne peut pas m'empêcher de jouer mon rôle en tant qu'acteur politique et de jouer mon rôle peut-être même en tant que candidat à un autre poste.
Cette inéligibilité n'est pas définitive. Elle a une durée de combien de temps?
Il faudrait bien lire cet article. Cet article utilise dans un de ses formulations le terme « une condamnation irrévocable ». L'irrévocabilité peut être transformée en révocabilité, si vous pouvez utiliser ce terme. C'est-à-dire que on peut jouer pour que cette condamnation ne devienne pas irrévocable. Et il y a des structures judiciaires, il y a des arguments juridiques qui permettent d'annuler cette irrévocabilité. Et je pense que ici, pour ma candidature en députation provinciale, je suis dans ce cadre où un paravent me permet de me barricader contre l'irrévocabilité.
Vous avez fait une restitution de ce qu'a été la campagne électorale. Quels ont été les écueils décelés tout au long de cette campagne qu'on peut corriger?
Il serait trop banal de ma part de dire que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Pour dire que les élections ont été organisées, il y a eu certainement des écueils, il y a eu des petits dérapages, mais que cela ne justifierait pas, à mon avis, l'annulation des élections. Parce que il y a eu un travail fait par tout le monde. La CENI a joué son rôle. Les électeurs ont joué leur rôle. Toutes les parties prenantes ont joué leur rôle. Et aujourd'hui, faudrait-il, parce qu'il y a eu des petites erreurs dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle dimension, mais qui n'affectent pas les fondamentaux de ce que nous attendions, c'est-à-dire des élections démocratiques, transparentes et inclusives. Si ces fondamentaux ne sont pas attaqués, je me dis, on risque alors de rejeter ces élections et de rejeter toutes les autres qui viendront par la suite, parce qu'il peut toujours y avoir un argument moi, grand ou petit soit-il, mais qui pourrait mettre à mal l'organisation. Je crois que nous devons plutôt voir qu'est-ce que nous attirons pour que le pays puisse aller de l'avant, en dépit des écueils qu'on a certainement constatés et qu'on peut constater même dans les grandes démocraties.
Quelles recommandations formulez-vous à l'endroit de la CENI et de la Cour constitutionnelle qui va bientôt se pencher sur les contentieux des résultats?
Premièrement, je dirais que ce n'est pas pour des petites maladresses qu'il faut rejeter en bloc les travaux qui ont été abattus par la CENI. Je reste confiant à la Cour constitutionnelle qui devra décider sur les derniers éléments lui fournis par la CENI. Moi, personnellement, j'ai été victime de la décision de la Cour constitutionnelle, mais c'est une décision qui était valable.
Vous aviez été investi d'une mission de pacification de l'Ituri qui est toujours aujourd'hui en proie à des atrocités, à des violences. La guerre est loin de se terminer en Ituri. Est-ce que votre mission aura échoué?
Nous ne pouvons pas déclarer notre mission comme un échec, d'autant plus qu'elle a été interrompue à mi-chemin. Mais si nous voyons tous les ingrédients, toute l'énergie que nous avions mis au service de cette mission et l'objectif qui était à quelques pas de nous avant notre captivité, cette mission aurait été la meilleure réussite et peut-être un paradigme pour d'autres cas. Alors, il est vrai que l'Ituri n'a pas véritablement quitté l'auberge de l'insécurité, d'autant plus que des miliciens de tous bords ont encore les armes. Ce dont on se frotte les mains aujourd'hui, c'est l'accalmie. Et nous pensons que cette accalmie, exploitée après les élections, pourra nous permettre de conclure la mission de pacification en Ituri, que cela soit faite par d'autres personnes. Aussi, nous pouvons en assumer aussi des responsabilités, mais on le fera parce que l'Ituri, ça nous concerne plus que quiconque et c'est notre dernière demeure.
Thomas Lubanga, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Le président du parti politique Union des Patriotes Congolais répondait aux questions de Jeff Ngoy Mulunda. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, bonne année chez vous.